Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on est heureux de pouvoir se retrouver ici. Bon, alors une fois c'est la corde vocale, une fois c'est la mouche. Bon, voilà. Promis, j'ai pris ma douche ce matin, hein, mais bon, j'ai pas d'amis, donc voilà. Voilà, on bénit Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne avec mon épouse de le servir dans la maison du Coteau Fleuri, c'est vrai. Et je veux peut-être encourager quelques-uns qui se posent des questions sur la possibilité de servir Dieu. Il y a toujours une porte pour servir le Seigneur. Quand on a le désir de lui être utile, le Seigneur nous ouvre des portes, des capacités, des possibilités de pouvoir le servir. Amen. Voilà. Tu veux que je commence par mon témoignage? Je sais pas. Je pensais aussi à la parole, peut-être, on est dans ce temps. Hein. On fait, voilà, ok, super. On va partager une pensée ce matin sur quelques exemples, quelques modèles. Enfin, vous avez vu que j'aime prendre dans la parole de Dieu les exemples qui sont là. Je bénis Dieu pour sa parole parce qu'elle est pour nous source d'enseignement, des fois purement doctrinale, mais aussi enseignement pour nos vies quotidiennes. Hein. Et on a comme ça des hommes, des femmes qui, dans les Écritures, ont vécu avec le Seigneur, d'autres pas avec le Seigneur aussi, mais je crois que ce sont pour nous des modèles et des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Parce que ce que j'aime dans la Bible, c'est que le Seigneur, il cache pas, il maquille pas. Il permet qu'on voit toutes les qualités des hommes et puis aussi leurs faillites parfois. Hein. On voit qu'Abraham, ça a été un homme de qualité dans bien des domaines. Et puis il y a eu d'autres moments de sa vie où il a failli. Hein. Et le Seigneur le cache pas. Un jour, je me souviens, je discutais avec une collègue de travail et elle me disait « Mais si Jésus, il était avec Marie-Madeleine ?» Vous savez, la vieille légende de Jésus qui a une relation amoureuse avec Marie-Madeleine. Ah. Et je dis « Mais d'où tu sors ça ?» Alors, j'ai dit « La Bible n'en parle pas. » « Oui, mais la Bible, elle ne dit pas tout. » Ben, je dis « Si, détrompe-toi. » David, il a chuté et la Bible en parle. Abraham, il a dit que sa femme, c'était sa sœur pour sauver sa peau. Ça a failli mal tourner et le Seigneur en parle dans la Bible. Amen. Jacob, il avait ses qualités et ses défauts, on les connaît. Si Jésus avait eu une relation quelconque, voilà, ce serait écrit. Et là, elle m'a regardé, tu crois? Mais j'ai dit, mais bien sûr, parce que Dieu est vérité. Le Seigneur, sa vocation, ce n'était pas de fonder un foyer, d'avoir une épouse, c'était de révéler le Père sur terre. Amen. De mourir pour nos péchés. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se marier, d'avoir une vie conjugale et d'avoir des enfants et autres, quoi. Hein, au contraire, puisque Pierre lui-même avait une belle-mère, que Jésus va guérir. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on pourrait peut-être lire quelques textes pour partager cette pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur et qui est ressortie en partie dans le don spirituel que le frère nous a donné. Je vous invite peut-être à lire avec moi ces passages de Galates, chapitre 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et je voudrais parler ce matin d'un thème très simple. Parfois, notre incompréhension, l'incompréhension de nos familles, de notre contexte de vie par rapport à notre foi. Et puis, le Seigneur, comment il veut conduire les choses. Voilà. Galates 1, versets 11 à 17. Voilà. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà, le texte que je vous ai partagé, c'est un texte pour introduire un petit peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul veut nous parler et ce que je voudrais faire sortir de l'attitude de l'apôtre Paul qui doit aussi bien sûr parler à nos cœurs. On va aller texte par texte. Celui-ci, vous avez vu, il commence par une chose qui est essentielle et je crois que c'est ce que chacun d'entre nous qui avons reçu l'évangile dans nos cœurs avons vécu à notre échelle. L'apôtre Paul l'a vécu, bien sûr, à sa dimension. Vous savez tous comment, sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à lui et d'une manière très puissante. Il est tombé du cheval et là, il y avait une action du Saint-Esprit dans son cœur, dans son être. Et il voyait bien que celui qu'il combattait tout d'un coup, c'était celui qu'il fallait pas combattre. Il était le Messie d'Israël. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, dans cette révélation puissante et glorieuse de Jésus, puisque il y avait une lumière aveuglante au point que l'apôtre Paul en a perdu la vue pendant un temps, hein, il est dit, hein, c'est écrit tout ça, eh bien, l'apôtre Paul, il a réformé sa position. Et ce que je veux vous dire simplement, c'est que sur une révélation de Jésus qu'il s'est donnée à l'Évangile, ce n'est pas parce que vous avez peut-être étudié savamment la Bible ou quelqu'un vous a influencé, vous a martelé quelque chose que vous êtes donné à Christ, mais le Seigneur s'est révélé à vos cœurs. La foi évangélique s'appuie sur la révélation. Elle s'appuie sur la compréhension de l'œuvre de Christ à la croix, non pas intellectuellement, par une révélation du Saint-Esprit au-dedans de nous. Et la portée spirituelle de son œuvre à la croix, pour nous, on la saisit. C'est l'action de Dieu, c'est surnaturel. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle à une religion, à une pratique. L'évangile, c'est une expérience avec Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul a fait cette expérience. Alors certes, pas une petite, hein, mais regardez l'attitude qu'il a eue. Après avoir été dans la révélation du Seigneur, vous connaissez l'histoire dans les Actes des Apôtres, un homme va prier pour lui, des écailles vont tomber de ses yeux, mais il va prendre le temps de chercher la face de Dieu. Il va prendre le temps d'aller en Arabie. Alors c'est pas l'Arabie Saoudite qu'on connaît nous actuellement, c'est un territoire un peu plus au nord qui était proche de Damas d'ailleurs et qui descendait vers le sud-est par rapport à Israël, les Nabatéens, tout ce coin. Et là, pourquoi l'Arabie? Ben parce que Paul, il a compris qu'il va falloir prendre du temps avec Dieu. C'est un homme religieux, c'est un homme qui aime Dieu. Il le dit avec excès, avec un manque d'intelligence, hein, il le dira, hein, de ses compatriotes. Et il sent que là, il faut prendre ce temps de chercher ce Jésus. Oui, tout d'un coup, sur la route, il a compris que celui qu'il combattait, il fallait l'accepter. C'est pas lui qu'il faut combattre, c'est le péché qu'il faut combattre. Combat pas Dieu, combat pas le Seigneur, combat ton péché. Hein? Et l'apôtre Paul... Ok, c'est bon, il avait première étape, Jésus est le Messie, c'est celui qui devait venir, c'est celui qui règne. Parce que quand Jésus se manifeste à lui, il est dans toute sa gloire, il rayonne de la puissance de Dieu. Mais il y a d'autres étapes à comprendre. Et Paul, il dit, je ne consulte ni la chair ni le sang. Alors bon, en français moderne, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de chair et de sang? Ben, tout simplement, il n'a pas été chercher de conseils auprès de sa famille ou auprès des hommes religieux de l'époque avec lesquels il vivait, pour lesquels il travaillait. Il avait ses entrées au Sanhédrin, il avait ses entrées auprès du souverain sacrificateur. Il était missionné par les hautes autorités religieuses de l'époque pour détruire l'Église, pour détruire la foi. Et là, il s'est pas dit, bon tiens, oulala, il s'est passé quelque chose sur le chemin, mais en vérité, je me trompe, c'est Jésus le Messie, il faut que j'aille prendre conseil auprès des docteurs de la loi, il faut que j'aille prendre conseil auprès du souverain sacrificateur, ou peut-être je retourne dans ma famille partager ces choses. Et en fait, non, il va prendre cette position, il va dire, non, je vais d'abord développer ma communion avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas des appuis où tu vas trouver des ennemis. Parce qu'on sait comment ça s'est déroulé pour lui. Il a fallu qu'il s'en aille de Damas dans une corbeille, le long de la muraille. Vous comprenez bien que les religieux de l'époque, eh bien, ils n'avaient pas accepté que Jésus soit le Messie. Et ils étaient prêts à combattre tous ceux qui avaient cette position. Et Paul, il va avoir cette sagesse de prendre du recul et de s'isoler et de chercher la face de Dieu. Et ce temps aura été pour lui, est un temps pour lui de bénédiction. Et vous avez vu, il est dit, c'est par révélation. Oui. Et j'ai oublié cette référence, je suis désolé, Elisabeth. Dans Éphésiens, il est dit que l'apôtre Paul dit, ces choses, je vous les écris par révélation. Éphésiens 3, j'ai pas le verset exact, pas dire de bêtises. Oui, Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère que j'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, mais il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, etc., etc. Et là, pendant ce temps où Paul va s'isoler pour chercher la face du Seigneur, il va comprendre la nouvelle alliance. Je pense qu'il faut, nous aussi qu'on prenne ce temps comme Paul a fait dans nos maisons, peut-être dans votre vie, dire, mais là, je vais prendre une parenthèse, je vais bloquer un peu mon activité et je vais chercher la face de Dieu. Et qu'on ait 5 mois de conversion, 5 jours de conversion, qu'on ait 5 ans de conversion, peut-être même 50 ans de conversion, c'est bon de faire comme l'apôtre Paul, d'aller à son Arabie. Vous voyez ce que je veux dire? Coteau Fleuri, par exemple, vous voyez? Non, mais bien sûr que la maison, elle est un peu faite pour ça, il a dit le frère, et c'est vrai. Mais dans vos vies personnelles, peut-être vous savez, vous, dans la semaine, un moment où vous pouvez aménager ce temps. Hein, peut-être, voilà, on a dit, les enfants sont à l'école, les mamans, là, tranquilles. Ah ben, ce matin, les enfants sont à l'école, je me prends 2 heures avec mon Seigneur. Je cherche sa face, je veux mieux comprendre sa grâce pour moi. Je veux mieux comprendre le nouveau contrat que Dieu a pour moi. Et l'apôtre Paul, il avait besoin de comprendre ce nouveau contrat. Il était sous la loi de Moïse. Fais cela et tu vivras. Et Paul, l'intelligence qu'il va recevoir de la grâce en Jésus, il va l'écrire dans les épîtres. Romains, Galates, les petits épîtres, Éphésiens, Colossiens, et ce n'est pas les moindres, nous font comprendre combien le nouveau contrat en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, est riche. La nouvelle alliance nous donne de connaître Dieu comme un Père. Tout d'un coup, la relation avec Dieu, elle est plus éloignée, mais elle est intérieure dans notre cœur. Comment le sang de Jésus, c'est le sacrifice parfait. Le sacrifice perpétuel que le peuple juif pratiquait au temple, hein. Et ben, tout d'un coup, en Jésus, il a été accompli. Et ce sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans par la personne de Jésus est encore présent maintenant. Il est perpétuel. Gloire à Dieu. Et Paul va comprendre toute la conséquence de bénédiction que ça apporte à sa personne, bien sûr, mais à tous ceux qui vont croire. Et à lui, le juif, ça va lui faire comprendre une dimension qu'il ne savait pas non plus. C'est que tout d'un coup, Dieu veut sauver tous les hommes. Les juifs et les non-juifs. Les grecs et les barbares. Les civilisés et les sauvages, hein, on va, en français courant. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes grec ou barbare. Je ne sais pas d'où vous venez. Mais le Seigneur, il vous a sauvé. Gloire à Dieu. Ou il veut vous sauver. Et Paul, il va rentrer dans une dimension nouvelle dans sa vie. Lui qui certainement vivait dans des conditions contraintes, hein, avec sa famille. Il était pharisien, il était benjamin, il était hébreu, petit-fils d'hébreu, etc. Il explique sa vie, hein. Il était très attaché à ses racines. Et il avait raison quelque part. Il avait raison quelque part d'être fier d'être juif. Parce que les juifs, hein, la Bible nous dit que le peuple juif, c'est l'olivier franc. Notre foi, elle est basée, elle est juive à l'origine. Ta foi que l'Esprit de Dieu a donnée dans ton cœur, elle est juive quelque part. Et tu fais maintenant partie du peuple du Seigneur, gloire à Dieu. Et Paul, il dira dans Romains que les juifs, ils ont les promesses, ils ont le culte, ils ont toutes ces choses extraordinaires. Mais il manque maintenant ce détail, qui est quand même pas le moindre, la grâce en Jésus-Christ. Il dira, ben oui, mais ils sont zélés, mais ils manquent d'intelligence. Soyons humbles, hein. Seigneur a bien voulu nous hanter sur l'olivier franc. S'il a su arracher les branches de l'olivier franc, alors restons humbles. Mais n'oublions jamais une chose. Peut-être vous avez des amis qui sont juifs autour de vous. Ben Dieu veut les hanter à nouveau. Gloire à Dieu. Priez pour eux. Parlez-leur du Seigneur. Dites-leur que Jésus est le Messie. Laissez l'œuvre de Dieu se faire dans leur cœur. On a un serviteur de Dieu là qui est dans la région, c'est Jacques Rigler, qui travaille avec Juifs pour Jésus et nous a expliqué comment ce peuple a des a priori sur nous les chrétiens, parce que quelle image ils ont. Les chrétiens évangéliques, ils ne nous connaissent pas trop, mais ils ont l'image de la foi chrétienne catholique qui a été persécutrice vis-à-vis du peuple juif. Et même, je vais vous dire, pendant de nombreux siècles et jusqu'il n'y a pas longtemps, on était persuadé que le peuple juif était complètement séparé de Dieu, qu'il était rejeté. Mais Paul dit le contraire. Les promesses sont toujours pour eux, l'alliance est toujours là. Et le Seigneur veut les sauver. Amen. Alors profitez de rendre témoignage. Hein. Et c'est vrai que Jacques, il m'a donné des clés pour pouvoir dire quelques mots parfois à des amis juifs quand je les rencontre. Il se trouve que depuis qu'il est venu au Coteau Fleuri, à chaque fois qu'on fait une action avec les frères Gédéon, je ne sais pas si vous connaissez le ministère des Gédéon de distribution d'évangile, presque à chaque fois je rencontre quelqu'un juif. Bon, bah écoute, voilà, merci Seigneur. Et Paul, donc, il va prendre ce temps avec son Dieu et il va découvrir les nouvelles dimensions de la foi en Jésus que Dieu donne. Hein. Il va comprendre que ceux du dehors, ceux qui n'étaient pas de la maison de Dieu, qui n'étaient pas juifs, ils sont maintenant de l'intérieur, ils sont de la maison de Dieu. Ta foi en Jésus t'a fait passer d'un étranger à un homme, une femme de la maison de Dieu. Amen. Ta foi en Jésus a fait de toi, qui n'était un étranger, un enfant de Dieu. Tu as un Père dans le ciel. Alléluia. Tu as un Père qui habite ton cœur par le Saint-Esprit. Tu as une nouvelle relation avec ce Dieu. Et Paul, il va comprendre toutes ces choses. Il va comprendre que toute condamnation est annulée. Il va comprendre que Jésus s'est fait malédiction et que la transgression de la loi qui amène une malédiction, elle est annulée par le sang de Jésus. Amen. Ne reste pas peut-être dans cet état de culpabilité parce que tu as péché et tu dis, mais moi c'est le fruit de mes péchés, il s'est passé ça dans ma vie et il y a une malédiction à cause de ceci, ou alors peut-être la grand-mère qui a fait cela, ou je ne sais quel péché ailleurs. Ta foi en Jésus, dans son sacrifice, t'a délivré de ces choses. C'est ta foi qui te délivre. C'est même pas ce que tu peux voir se faire autour de toi. C'est même pas ce que tu sens dans ton cœur. Tout ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu crois, qui est écrit. Amen. Ce que Christ a fait pour toi, c'est la vérité. Sois libre en Jésus. Amen. Sois libre, ose le proclamer. Tes chaînes ont été brisées. Le sacrifice du Seigneur est un sacrifice de libération. Alléluia. Et ta foi te fait rentrer dans cette liberté. Je me souviens d'un homme qui nous avait raconté son témoignage. Et donc, c'était un homme, un banquier d'affaires international, richissime, avec un pouvoir extraordinaire. Et cet homme était très orgueilleux, il le dit lui-même, hein, il dit « voilà, j'étais très fier ». Et puis son épouse, il s'est séparé de son épouse, il avait eu 4 enfants, je crois. Et puis son épouse s'est convertie, puis un de ses fils s'est converti, puis il lui rendait témoignage. Et puis lui, il voulait pas en entendre parler. Et puis un jour, il a échappé à un accident d'avion, mais vraiment in extremis. Il avait un petit avion avec un ami. Et même là, il a pas eu l'humilité de reconnaître que Dieu l'avait gardé. Il se croyait invincible, vous voyez. Et puis il a fini par fléchir le genou devant le Seigneur. Il s'est repenti. Il est né de nouveau. Et il raconte que dans les premiers moments de sa vie chrétienne, il avait 65 ans que s'est converti cet homme. Et quand il a été touché par le Seigneur, d'abord il s'est mis à être rempli d'une joie surnaturelle pendant plusieurs jours. Il riait, il était heureux, il riait. Alors le chauffeur de voiture, le patron, il est heureux en ce moment. Ouh là là, il a une nouvelle petite amie peut-être. Hein, oui. Et en fait non, il avait découvert l'ami fidèle, le sauveur. Et puis il raconte que dans son parcours, le Seigneur l'a amené à prendre du temps avec lui. Le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'il arrête ses activités professionnelles, internationales, très prenantes, et de se consacrer à lui. Alors il dit, bah d'accord, je vais aller dans une école biblique. Alors il va en Angleterre dans une école biblique. Et puis là, il a été à l'école du Seigneur. Il y a une jeune femme qui l'accueille. Oui, bonjour, tout ça, bienvenue. Oui, oui, c'est bien, vous allez faire quelques années d'études, c'est très bien, biblique, voilà. Tenez, je vous montre la chambre. 3x3, un petit lit en 90, voyez. Lui, le banquier d'affaires international, qui bourlinguait à gauche, à droite, qui avait tous les palais, toutes les... Eh bien là, tu vois, tu es dans ton désert, tu es dans ton Arabie, là, tu vois, tu es bien là. Puis le Seigneur, il va parler à son cœur. Et puis vous savez ce qu'il va lui dire, le Seigneur ? Il va lui dire, tu vas te remarier avec ta femme. Ouh ! T'es sûr, Seigneur ? Non, non, mais il y a une jeune femme là-bas, elle me plaît bien. Non, 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 non. Je hais le divorce. C'est écrit dans la parole. Et maintenant, tu vas te marier avec ta femme, 65 ans. Oh, hein. Eh oui. Il est retourné avec son épouse, il s'est marié. Quand on l'a connu à l'époque, il rendait témoignage, il avait 75 ans, il était heureux. Gloire à Dieu ! Il a fallu qu'il aille dans la petite chambre, dans l'Arabie, vous voyez ? Il y a des choses que Dieu fera dans notre vie que si on réunit les conditions. Et moi, je bénis Dieu pour un homme comme Paul qui a eu la sagesse de se dire « Je ne vais pas chercher des conseils auprès des hommes, des femmes, de ma famille. » Peut-être même, il l'a dit, hein, il aurait pu monter à Jérusalem, rencontrer les apôtres, qui avaient été, les hommes qui étaient apôtres avant lui. Mais il a discerné dans son cœur qu'il fallait que quelque chose se passe. Il avait compris que Jésus était le Messie, mais maintenant, il fallait qu'il comprenne quelle était la conséquence. Et quand on voit tout ce qu'il a écrit derrière dans les Épîtres, on se rend compte quand même que Paul avait une intelligence spirituelle assez incroyable, hein ? Voilà. Merci Seigneur. Alors on pourrait peut-être voir ensemble peut-être quelques autres situations où le Seigneur veut façonner nos cœurs. Moi j'ai pensé bien sûr à Jésus, hein ? On peut aller chercher cet exemple où Jésus, Luc chapitre 4 verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, il vient du baptême, hein, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Alors pourquoi j'ai pris ces deux versets ? Ben, en général, on connaît assez bien ce qui s'est passé quand même. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, va dans le désert après le baptême. Oh Seigneur, c'est toi qui m'envoies là-bas là ? C'est toi qui m'envoies dans cette situation, cette galère là où je connais personne. Eh oui, tu vas sortir de ta barque, tu vas te lâcher des deux mains, puis tu vas me faire confiance. Et le Seigneur, mais quand l'Esprit de Dieu nous conduit, on a la paix malgré tout. Même s'il y a des interrogations là-haut, sous le plafonnier, vous savez, ça cogite. Hein. Il y a la paix du Seigneur. Et garde la paix du Seigneur dans ton cœur. Regarde à la paix que Dieu te donne plutôt qu'aux questions que tu te poses. Parce que le Seigneur est devant toi, il ouvre la route. Mais là, Jésus, il se retrouve dans le désert et il va être tenté par Satan. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas Dieu qui nous envoie là. Bien sûr que Dieu ne nous tente pas, dit la Bible. Mais il y a des passages dans nos vies parfois où le Seigneur veut éprouver notre profondeur d'âme, veut éprouver notre désir de sainteté. Et il peut mettre, pas lui, mais il peut permettre que des choses soient devant nous pour qu'on apprenne à dire non. Alors des fois, on va se planter. On va se laisser gagner. Et le Seigneur, il va dire, bah, tu vas apprendre à dire non. Parce que ce que tu as aimé dans ta vie passée, maintenant tu vas apprendre à le vomir. Tu vas apprendre à dire non. Parce que moi, je veux que tu ne marches plus comme un homme ou une femme charnelle. Je veux que tu marches comme un homme, une femme spirituelle. Et tu dois te couper de l'amour des choses du monde. Et Jésus, il nous montre l'exemple. Gloire à Dieu. Et vous avez vu à la sortie, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, le verset d'après. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, quand tu seras nettoyé des choses mauvaises de ce monde, quand tu auras vaincu les œuvres de la chair, forcément il y aura plus de puissance de l'Esprit dans ta vie. Il y aura plus de la plénitude de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Parce que c'est comme des mouches qui infectent l'huile, hein, nous dit la Bible. Et le Seigneur veut nous conduire dans ces temps. Alors, ce n'est pas agréable le désert. Hein. Voilà, il est dit que Jésus eut faim, qu'il était au milieu des bêtes sauvages. Hein. Ce n'est pas agréable. Mais c'est là où on cherche Dieu davantage, bien souvent. Hein. Et il ne faut pas le craindre. Parce qu'il y a une école de Dieu pour toi. Il ne faut pas le craindre. Et même si, je le disais dernièrement encore, ça peut arriver, bien sûr, paf, on a chuté. On se relève, on se remet debout. Seigneur, je vais apprendre. Tu vas m'éduquer, je vais changer de mentalité. C'est l'action de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, ça. Afin que tu t'affranchisses de la mentalité du monde. On a besoin de s'affranchir de, parfois de nos cultures, de ce qu'on a reçu en enseignement. Il a dit, le frère, tu as reçu de bonnes choses dans ton éducation, c'est bien. Mais l'essentiel, il n'est pas là. Il faut que les valeurs s'inversent dans le sens qu'il ne faut plus que ce soit tes valeurs éducatives qui soient fortes, mais que ce soit ta communion avec Dieu qui soit forte. C'est elles qui vont irriguer tes valeurs éducatives, si je puis dire, tant qu'elles ne sont pas contraires aux Écritures. Mais la vraie priorité, c'est cette dimension de la grâce dans ton cœur qui te met en communion avec Dieu et qui donne la vraie vie. La loi est bonne, mais sans l'Esprit, elle tue. Mais avec l'Esprit, elle donne la vie. Et ça, c'est le fait de la grâce de Dieu en Jésus. Vous vous souvenez, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance avec les tables de la loi, ces 10 commandements, et qui sont très bons, hein, ces commandements, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il y a un jeune homme riche qui a dit à Jésus qu'il s'était appliqué à les mettre en œuvre le plus possible. Donc, c'est qu'il sentait que c'était bon. Et on, dans notre conscience, on sent bien que c'est bon. Mais il est dit que sur l'arche de l'Alliance, le sacrificateur, il mettait du sang sur les cornes. Le sang, c'est le sacrifice. Et par le sacrifice de Jésus, il y a la grâce qui est ouverte. Et dans la grâce, il y a l'onction de l'Esprit qui te donne la capacité de vivre la loi de Dieu. Amen. Et qui ne fait pas de toi un religieux et un légaliste, mais un homme rempli de la vie du Seigneur. Et que tu deviens le sel de la terre. Amen. Merci Seigneur. Et Jésus, donc, il va au désert. Et là, il, c'est fou, hein, bien qu'il soit fils, il a appris les choses par la souffrance. Ben même là. Il va être tenté, le diable va venir. Lui, le fils de Dieu, quand même. Et il va lui résister. Et moi, je veux te dire ce matin, ne crains pas les temps de désert. Ne crains pas l'Arabie. Ne crains pas ces moments où l'ennemi vient te tenter. Mais au contraire, apprends. Laisse l'Esprit te conduire, laisse l'Esprit te fortifier. Prends position pour ton Seigneur. On va aller voir un autre homme aussi. Donc, dans la Genèse, chapitre 25. Alors, il y en a plein, hein, on aurait pu en voir bien d'autres. Chapitre 25, verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre 27, verset 36. Ésaü dit, est-ce parce que l'on m'a appelé, est-ce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Et puis un petit peu plus loin, 41-45. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Super ambiance familiale. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? Alors, situation un peu compliquée, mais j'ai voulu partager ce passage de la Bible où on voit des hommes dans la Genèse, et c'est pas le seul, hein, Jacob, Joseph, Moïse, qui ont été amenés dans un temps de séparation de la famille, un temps de séparation et de coupure, dans des temps de désert, des temps qui nous paraissent très compliqués, mais en fait qui ont été des temps formateurs pour eux. Alors, vous avez vu déjà le terrain familial, je suis désolé, il est pas extraordinaire. Isaac avait une préférence pour un et Rebecca pour un autre. Et ça, c'est pas très bon, les chouchous. Et résultat, et c'est ça qui est malheureux, c'est que Rebecca va œuvrer de manipulation et il y a chez Jacob un terrain un petit peu ouvert à ce genre de choses. Il avait déjà manœuvré son frère avec le plat de lentilles, mais quand même, aller se faire passer pour son frère vis-à-vis du père, il sentait bien que c'était pas net quand même, hein. Mais il s'est laissé faire. Résultat des courses, vous avez vu une ambiance exécrable dans la famille. Les deux frères se haïssent, enfin surtout Ésaü vis-à-vis de Jacob, et il veut le tuer. C'est pas une petite chose, hein. Vous savez, quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, il y a des conditions. Nous, en France, ça va à peu près, mais enfin, vous savez, des fois, il y a des familles, si on pouvait éliminer celui qui croit en Jésus, ça existe, hein. Nos frères et sœurs qui vivent dans les pays musulmans, des fois, c'est compliqué pour leur vie, hein. Ils sont obligés de fuir, hein. Moi, je me souviens d'un frère, j'avais entendu ce témoignage. Ce frère, donc, s'était converti. Il était, je crois, en Irak. Et puis, il a quitté la ville où il habitait parce qu'il a dû protéger sa vie. Et puis, le Seigneur est bon. Il y a une organisation chrétienne qui lui a fait un microcrédit. Et ça lui a permis de devenir taxi et de pouvoir garder la foi. Et puis, non seulement ça, mais de devenir pasteur. Il a une église de 300 personnes. Voilà. En Inde, il y a quelques années en arrière, c'est pas très vieux, hein. Un pasteur nous a raconté cette histoire. Leurs enfants se convertis, leur fils se convertit, il a 17 ans à peu près, 17-18 ans de mémoire. Alors il est tout feu, tout flamme, il est rempli du Seigneur, il est heureux, il a la joie du salut. Ses parents sont hindous, voyez. Et vous savez, chez les hindous, Jésus c'est un dieu parmi d'autres. Mais quand on commence à dire non, c'est le seul vrai dieu, là ça commence à mal tourner l'histoire. Alors les parents, ils disent rien. Et le fils, il dit, ouais, je vais prendre le baptême à telle date. Hein, vous viendrez à mon baptême? Oui, 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 oui. Bon, ben, tiens, pas mal. Et puis, bon, les choses se mettent en place. Et puis, le jeune homme se fait baptiser. Et puis, les parents sont là. Les parents s'approchent du pasteur. Le pasteur est sur la réserve parce que c'est des hindous. Les hindous, parfois, sont très violents. Et puis, les parents disent, voilà, on voudrait se faire baptiser, nous aussi. Ah bon? Écoutez bien. Ça fait 3 semaines qu'on empoisonne notre fils pour le faire mourir. Et il n'est pas mort. Et il confesse Jésus. C'est vraiment le vrai Dieu. Eh oui. Alors peut-être tu vis la séparation de ta famille, peut-être tu vas vivre des temps de rejet. Mais t'en inquiète pas parce que le Seigneur est avec toi. Et Paul, il a souffert de ça. Il le dit dans Romains chapitre 9. Il dit, je souffre d'être séparé. J'aimerais être anathème. Il y a une souffrance qui est là. Même Jésus, il a dû à un moment donné dire à sa mère, ça suffit maintenant, tu gardes ta place. Moi maintenant, je dois rentrer dans le ministère dans lequel le Seigneur m'appelle. Il y a un autre moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ses frères, ses sœurs, sa mère sont là et ils disent, mais il est hors de lui, il a perdu la tête. On va lui parler, on va lui ramener les pieds sur terre. Hein, c'est vrai que des fois, on est tellement zélé pour le Seigneur, on est là, on parle de Jésus à la famille, tout ça, mais eux, ils sont tellement loin de ces choses. Oh, tu nous prends la tête avec ton histoire, et puis t'as vraiment, tu t'es fait endoctriner, non, on n'a rien, on n'a pas perdu la boule. On a un vrai amour qui brûle. Et c'est vrai qu'on peut très bien ne pas être compris. Alors, heureusement, le Seigneur va dire, non, mais moi, mes frères et sœurs, c'est ceux qui sont là, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique dans leur vie. Amen. Encourager quelqu'un ce matin, peut-être qui souffre de ne pas voir les siens se tourner vers Dieu, et pire que ça, qui souffre d'être rejeté pour sa foi. Hein ? Soit encouragé ce matin, soit fortifié. Il y a là, dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont souffert pour la foi, pour leurs convictions spirituelles, et qui ont passé le temps. Et donc Jacob, il va partir, il va fuir sur les conseils de sa mère, un des rares conseils qui soit à peu près cohérent chez cette brave dame. Et donc, il s'en va quelques temps, 14 ans. Et là, c'est le tonton qui va façonner le neveu, voyez. Enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Mais Jacob, il avait besoin de changer de mentalité. Il avait besoin d'être nettoyé de sa façon de réagir. Le supplanteur, il a vu comment ça fait de se faire supplanter. Mais au-delà de ça, Jacob va développer lui aussi une relation personnelle avec son Dieu. Il ne faut pas trop couver les enfants. Il faut les éduquer, il faut les aimer. Mais il faut les amener sur le terrain de l'expérience personnelle. Et c'est vrai, bien sûr, je parle du coteau fleuri, mais on a des colos dans nos milieux, on a des camps. Il y a aussi, bien sûr, les camps famille, mais c'est bien, envoyez-les, voilà. Et puis là, ils font leur expérience loin de papa, maman, et ils découvrent Jésus comme leur sauveur personnel. On a un jeune homme, là, cette année, qui est venu en camp d'ado, et c'est le papa qui nous a raconté. On a été touchés cette année parce que les ados venaient au culte du personnel à 7h30. Quand on connaît les ados, 7h30, enfin moi je vous dis qu'à 7h30 en vacances, j'allais. T'es pas debout. Hein. Et nous, ça nous a touchés de les voir. Et c'était pas 4-5 ados, c'était 25-30 ados. Il y a une soif spirituelle. Et là, il y a un jeune dans le dernier des cultes du personnel, il a été touché, il a compris le salut, il a saisi la grâce de Dieu. Il a raconté à son père. Moi, je l'ai eu dans la voiture là dernièrement. Puis je n'avais pas dit que je savais, mais bon, bref. Et puis il m'a fait sourire, il a posé des questions sur le fonctionnement du coteau, tout ça. On sentait que tout d'un coup, il s'intéressait à quelque chose. Ce n'était pas des questions d'ado classique, quoi. Je dis, toi, le Seigneur, il travaille ton cœur en ce moment, c'est bien. Et vous m'imaginez comme le père était content. Mais c'est bien, faites-le, éduquez vos enfants dans la foi. Le premier endroit où on apprend à vivre la foi, c'est dans la maison. Hein. Voilà. Et les parents, vous êtes des témoins vivants de votre foi. Hein. Voilà, hein, vivez votre foi, lisez la Bible, partagez les choses avec vos enfants, priez avec eux, amenez-les sur le terrain. Tout ça, c'est de la semence, tout ça, c'est de la vie. Hein. Et au moment voulu, quand ça émerge, hop, le Seigneur fait ressortir. Vous savez pas ce qui va se passer dans leur vie. Hein. Vous savez pas ce qui se passe. Hein. 15 ans, 18 ans, 20 ans, ils font pas toujours les bons choix. Hein. Vous êtes derrière, mais heureusement que vous priez pour eux, hein, qu'il y ait la garde sur eux, hein, une garde sur eux. Il y a tellement de tentations tordues maintenant. Continuez, faites. Mais ils ont l'expérience à faire personnelle. Et Jacob, il a fait son expérience avec le Seigneur. Et c'est plus le même homme qui est ressorti de là-bas. De même que Jésus est ressorti avec la puissance de Dieu. De même que Paul est ressorti avec une compréhension ajustée, affinée de la nouvelle alliance. De même, Jacob va sortir avec une autre mentalité. Et moi, je te dis, ne crains pas peut-être de couper les ponts parfois. Ou que Dieu te conduise dans un moment où comme les ponts vont être coupés avec ta famille, avec ton cadre professionnel, je ne sais pas exactement. Ça va te porter peut-être une souffrance et c'est normal. Mais le Seigneur veut travailler ton cœur, il veut te faire du bien, il veut te faire sortir grandi de ces choses. Et quand tu vas revenir dans ce contexte, parce que la roue tourne, hein, j'ai une belle-sœur qui dit « Ouh, la vie c'est long hein. !» Mais elle a raison. Et bien là, tu vas revenir différemment, tu vas porter un fruit nouveau dans le contexte où tu vas être, dans ton contexte familial souvent. Et je vais clôturer par ces quelques textes aussi qui nous montrent que ces hommes qui ont pris une position ferme, ça n'a pas empêché Dieu de bénir leur famille et ils ont conservé une relation avec leur arrière-plan. Paul, en Actes, chapitre 23, versets 16 et 17, nous montre ceci. « Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » On voit que Paul, il a gardé une relation familiale. Il était dans la Nouvelle Alliance, c'était un juif messianique. Peut-être il n'a pas été compris de toute sa famille, mais les années ont eu raison de cette incompréhension. Et son ministère, les autres ont dû le voir. Tu te rends compte, le tonton Paul, il prie pour les malades, ils sont guéris. Le tonton Paul, il parle de Jésus aux païens, aux goyes. Et il croit en Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? Bah oui, voilà, la maman a dû expliquer, j'en sais rien ce qu'elle a fait. Mais on voit qu'il y a une relation qui est maintenue. C'est pour un temps parfois que les choses sont un peu distendues. Et on en souffre, mais dans nos cœurs, le Seigneur travaille. Et puis il y a Jésus aussi qui nous parle, dans Jean chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Vous vous souvenez de ce passage, Jésus est sur la croix, il est en train de mourir pour nos péchés. Puis il y a Jean qui est là, l'apôtre qu'il aimait, hein, dit la Bible. Et il y a sa mère qui est là, Marie, qui voit un spectacle, je crois qu'elle n'a jamais bien compris sur le moment ce qui s'est passé. Après, bien sûr qu'elle a saisi. Hein. Elle a besoin d'être sauvée comme tout le monde. Hein. Marie, elle n'est pas née sans péché. Hein. Ça, c'est du blabla religieux, catholique. Parce que l'Immaculée Conception, c'est ça. Si elle a été conçue sans péché. Non mais c'est quoi ça? Celui qui n'a jamais péché sur terre, c'est Jésus. Et d'ailleurs, Marie, elle dit, tu as jeté les regards sur ta bassesse de ta servante. Marie, elle reconnaît qu'elle est pécheresse devant Dieu Saint. Elle connaît la loi, elle connaît. La loi nous renvoie notre péché. Hein. C'est pas vrai, elle n'est pas née sans péché. Et là, elle est là, elle voit son fils agoniser, elle voit Jésus mourir sur la croix. Certainement qu'elle aussi, elle n'a peut-être pas tout à fait compris ce qui se passait. Mais là, le Seigneur va prendre soin d'elle. Et pourtant, quelque temps avant, il lui aura dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Regarde ta place, s'il te plaît. » Ça ne l'a pas empêché de suivre son fils et puis de finir par comprendre qui il était, qu'il était vraiment le Messie, le sauveur d'Israël et puis qu'il viendra le sauveur du monde. Amen. Il est dit que même ses frères ne croyaient pas en lui à un moment donné. Tes frères, ils ne croient pas en toi ? Ils ne croient pas dans ce que tu crois ? Ils te rejettent ? Bon, bah écoute, sois dans la paix, hein. Marche, avance. Et ça n'empêchera pas ses frères de servir, puisqu'on saura un peu plus tard que dans Galates, chapitre 1er, verset 18, et on le voit dans les Actes des Apôtres, Jacques, le frère du Seigneur, sert Dieu par la foi en Jésus. Amen. Et oui, faut pas craindre. On se fait rabrouer, on n'est pas compris, mais il y a un fruit qui est porté. Amen. Et puis je finis avec Jacob, quand même, c'est assez beau, hein, la fin de l'histoire. C'est une happy end, comme ils disent les Américains. Genèse 33, verset 1 à 4, on va le lire. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Transpire Jacob là, transpire. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et ses deux servantes. Bon, elle met les petits devant. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois. Ouh là là, ouh là là. Il sent le fil de l'épée qui passe, voyez là. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Amen. Waouh, il voulait le tuer hein, quand même à l'origine. Et puis après il veut dire, mais c'est qui tous ces gens derrière? Ben voilà, c'est Dieu qui m'a béni. Ah mais moi aussi j'ai été béni, j'ai eu de la réussite. Et là, la consolation de Dieu est sur les cœurs de chacun et la réconciliation est là. Amen. Alors c'est vrai que parfois, notre foi, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parfois, ça arrive. Dans nos familles, dans nos relations proches, ça amène comme l'épée. Il y a une séparation. Et il y a des mots parfois qui peuvent être dits qui sont durs. Hein, qui sont durs. On n'est pas compris, c'est difficile. Parfois, nous-mêmes, on est fougueux. Alors, on va réagir avec trop de force, voyez, avec un manque de sagesse. Mais avec le temps, Dieu travaille. Jacob, il a été changé. Ésaü aussi, il a été béni. Mais Ésaü n'aura pas la même relation avec Dieu que Jacob aura. Et laisse faire le Seigneur dans ta vie. Laisse faire le Seigneur sa transformation. Et il y aura des réconciliations. Gloire à Dieu. On veut croire en ces choses. On veut bénir Dieu. Avec Dieu, il y a toujours une fin heureuse. Et la meilleure des fins, c'est la vie éternelle. Parfois, je finis là-dessus. Il y a des frères et sœurs. Moi, je me souviens d'un témoignage de mon beau-père qui me racontait qu'il avait connu une sœur qui avait un mari volage et qui a dû se séparer de cet homme. Elle a fait le choix de pas divorcer, mais ils étaient séparés, bien sûr. Et malgré la séparation, cet homme ne réfléchissait pas à son comportement, il a continué. Mais elle est restée fidèle dans son engagement de foi et elle s'est restée fidèle avec son mari. Et cet homme, dans la fin de ses jours, il s'est quand même calmé, bien sûr, mais surtout, il est tombé malade. Et elle est allée le soigner, s'occuper de lui. Elle l'a suivi et il s'est converti. Et ça, c'est la plus grande des réconciliations. Et cette femme, elle a gagné son mari. Et peut-être même, ils se sont réconciliés. Il a dû se rendre compte quand même. Voilà, gloire à Dieu. On veut bénir Dieu pour ces choses, on veut remercier. Peut-être une ou deux personnes pourraient élever la voix et puis après on passera sur le dernier temps ensemble.